Internet Campagne, bonjour. Durant cette fin d'année qui approche à grands pas, nous vous proposons des rencontres inédites en provenance de toutes les régions de France et parfois des haltes un peu plus longues pour rencontrer ceux ou celles qui ont décidé de changer leur quotidien et de partager leur plaisir et leur savoir-faire. Comme il y a assez peu de neige en ce moment, hormis vers les sommets, rien de tel qu'une balade en roulotte. La roulotte, symbole du nomadisme, a conditionné la création d'une association de jeunes dans le Sancerrois. Elle s'appelle l'Envie Vagabonde, elle est née en 2013. La première étape consistait à construire l'engin en version artisanale. Pas de clous, pas de vis, ni de pointe. Le tout en assemblage bois à l'aide de chevilles. La bande de copains a vite appris les rudiments. La seconde étape était de faire de Simone, c'est ainsi que la roulotte est désignée, une plateforme culturelle itinérante. Spectacle vivant, théâtre, musique, atelier découverte pour petits et grands. Et cette étape a été franchie aisément en région centre, avec même à la clé un festival en roulotte. Simone. Cette chère Simone profite de l'hiver pour bénéficier de nouveaux aménagements. Avant de reprendre la route au printemps, vous allez trouver un lien avec la page Facebook de l'association, nos pages d'émission. Aujourd'hui, c'est une rencontre étonnante pour une invention qui a quelque chose d'extraordinaire. Je vous laisse donc profiter de la venue de Jérémy Gobet pour savourer sa découverte exceptionnelle.
France Inter. Carnet de campagne. Philippe Bertrand.
Jérémy Gobet, bonjour.
Bonjour.
Jérémy, merci à Thomas qui nous a envoyé un petit courrier en disant, voilà, aujourd'hui, la dentelle du puits en Velay peut sauver les barrières de corail. Je me attendez, c'est quoi? C'est de la science-fiction? Non, c'est pas de la science-fiction. On va y venir, mais d'abord, et on va parler donc de ce projet Corail Artefact. Mais vous, vous êtes artiste plasticien, né à Cambrai, installé à Paris, et j'ai vu que vous travaillez beaucoup sur une mémoire des savoir-faire et une mémoire industrielle d'une industrie qui, souvent a disparu.
Oui, exactement. En fait, je pense que comme tout artiste, à un moment donné, on doit regarder l'histoire de l'art et en même temps l'avenir de la création et voir qu'est-ce que nous, en tant qu'artistes, on peut apporter comme pierre à l'édifice. Donc moi, ce travail-là, je l'ai fait. Et de me poser la question, voilà, quelle était un peu la spécificité de mon travail. Et j'ai toujours travaillé en parallèle de mes études artistiques. Et j'entendais, quand j'étais serveur, déménageur, etc., j'entendais souvent les gens parler d'un oncle qui avait perdu son emploi à l'usine, voilà, d'une usine qui fermait, etc. Et un jour, je me suis dit, je vais aller voir, en fait. Juste me rendre compte de ce que ça veut dire vraiment. Et une usine de textile, de coton, fermée dans les Vosges, qui fermait. En fait, j'ai été extrêmement bien accueilli par les employés, qui étaient heureux de voir quelqu'un qui n'était pas homme politique, pas journaliste, mais qui était là pour les rencontrer. Et de là est née vraiment une vraie rencontre, et pour moi un choc créatif, parce qu'en fait, les employés ont rempli ma voiture avec tout le tissu qui était encore là avant la fermeture, et ils m'ont dit, toi qui es jeune et qui es artiste, tu en feras quelque chose et tu vas transmettre notre mémoire. Et là, ça fait tilt, et je me suis dit, oui, c'est exactement ça, en fait, qui doit devenir mon travail. C'est d'abord des rencontres, pas de projet à l'avance, mais surtout des rencontres. Et justement, prendre ces savoir-faire et ces techniques, et en tant qu'artiste, essayer d'y apporter un nouvel élan vital, de montrer en quoi ces traditions peuvent avoir une résonance avec notre société contemporaine. Et du coup, en découle aussi l'idée de qu'est-ce qui aurait dû être fait pour pouvoir les perpétuer, pour éviter les délocalisations, etc. Donc c'est vraiment avoir un regard neuf par rapport à ces activités et vraiment une rencontre qui naît à ce moment-là.
Ce que vous en avez fait, Jérémy, est très heureux. Alors d'abord, cette toile est magnifique, parce que j'ai vu donc des photos de vos créations où vous allez tapisser. Bon, c'est pas tout à fait tapisser, vous donnez du relief à des espaces plats, enfin à un plan plat, mais ce relief peut sortir d'un immeuble, passer par une fenêtre, et on a une sorte de coulée de lave qui est une coulée de textile imprimé.
Oui, alors c'est pas du tissu imprimé, c'est du tricot.
C'est du tricot.
Ouais, ouais. C'est du tricot au motif jacquard. En fait, l'idée de ces installations, quand j'ai une carte blanche pour envahir un espace, c'est justement envahir un lieu avec une idée. Mmh. Et là, l'idée, c'était de spécialement pour ce travail sur le jacquard. En fait, j'ai découvert le tricot par hasard pour continuer une certaine œuvre, et j'ai de plus en plus compris en fait le tissu industriel qui était autour du jacquard. Et en fait, une des premières grèves de l'histoire a eu lieu dans une usine du nord de la France, dans la ville de Fourmies, et c'était dans une usine de jacquard. Aujourd'hui, le jacquard est un peu ringardisé, on ne sait pas trop d'où il vient, etc.
À tort.
Exactement. Évidemment. Parce que surtout que c'est une invention extrêmement complexe et très mathématique. Mmh. et un savoir-faire français. Et en fait, cette première grève était une journée pacifique et les patrons ont eu peur. Ils se sont dit, si les employés commencent à nous réclamer des choses, on est mal. Ils ont appelé l'armée, il y a eu un quiproquo et en fait, l'armée a tiré sur les gens et ça s'appelle la fusillade des fourmis. Ce que je trouve fou, c'est que ça, on ne l'apprend pas. Personne ne le connaît, ce passé-là. En plus, maintenant que tout est délocalisé aujourd'hui au Bangladesh, il se passe exactement les mêmes choses là-bas. Des répressions policières dans les usines, de grandes marques de vêtements, etc. Donc ça parle de tout ça. Cette installation, elle s'appelle la liberté guidant la laine. Et en fait, les formes que vous voyez qui sortent du mur reprennent les points levés du tableau de Delacroix. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'envahir un espace, déjà d'avoir un apport physique et esthétique à l'œuvre. Et en fait, on n'a pas le choix, quand on est dans cette œuvre, de se poser la question de comment c'est fait, pourquoi et comment. Et montrer aussi comment un homme, à son échelle, peut faire une œuvre monumentale. Donc si on s'allie tous, c'est un exemple de comment cette industrie pourrait reprendre et renaître.
Et Jérémy, vous réparez, si je peux me permettre, une idée un peu reçue sur l'art contemporain, que certains jugent évidemment très élitiste, effriqué, et jugent surtout trop conceptuel alors qu'il est gestuel.
Ouais, je pense qu'en fait les deux, il faut pas faire de sectorisation et que les deux sont extrêmement intéressants. Allier la force du concept et de la forme, du travail et de l'esprit, c'est pour moi l'alliance gagnante. N'oublions pas toutes les œuvres artistiques qui ont été faites, à la fois dans le concept et à la fois dans la forme. Et aujourd'hui, en 2018, on a la chance d'avoir eu tout ce background derrière nous pour pouvoir faire des œuvres contemporaines autour de ça. Donc ça, c'est parfait. Ça, c'est ultra intéressant. Là, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas faire fi de l'écologie et qu'aucun artiste ne peut ne pas se pencher sur l'environnement puisque c'est l'enjeu majeur de notre époque. D'où découlent toutes les inégalités sociales, culturelles, etc. Moi, ce que je veux, effectivement, c'est cette fracture qu'il y a entre le grand public et l'art contemporain. Elle n'a pas lieu d'être. On est allé trop loin. Et c'est pas une question de concept ou une question de matière ou de forme ou de travail. C'est une question de bon sens. Et je pense que c'est ça aussi ce que j'ai envie de remettre en œuvre dans mon travail. C'est que l'art est fait pour être partagé. Et c'est ça vraiment le cœur de mon travail.
Un carnet de campagne avec Jérémy Gobet, aujourd'hui artiste plasticien. Je vous conseille d'aller voir son site pour découvrir son travail. jeremygobet.info pour l'adresse du site. Donc je vous ai mis l'eau à la bouche, je vous ai dit qu'il y avait une innovation qui relève d'une révolution. Une révolution écologique, entre autres. C'est en visitant un savoir-faire très local, la Scop Fontanil, qui réalise de la dentelle, la fameuse dentelle du Puy-en-Velay. Vous avez vu une similitude entre la dentelle et le corail. Et la similitude qui est du mimétisme va au-delà de ça, parce que scientifiquement, la dentelle pourrait être un réparateur des barrières de corail.
Ben c'est tout à fait ce qu'on est en train de tester au laboratoire du Muséum d'Histoire Naturelle avec Isabelle Domarcoulon, qui est chercheuse en biologie marine. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, ce projet donc qui s'appelle Corail Artefact relie exactement toutes mes préoccupations en tant qu'artiste. C'est de réaliser des œuvres, d'avoir un apport esthétique, un apport de travail. Donc il y a au départ, c'était une installation monumentale où je recrée un récif de corail en dentelle. Donc avec Fontanil, on a créé différents motifs. Mais en même temps, ce que je voulais, c'est au-delà de dénoncer, au-delà de mettre le doigt sur un problème, d'essayer d'y apporter une solution. Et je travaillais depuis quelques temps sur des squelettes de coraux que je continuais avec différents matériaux, parce que aussi je peux chiner différents objets.
Parce que vous avez fait toute une réalisation pendant quelques années, corail restauration, exactement, à base de coraux récupérés chez Emmaüs.
Oui, tout à fait. Et en fait, j'étais fasciné d'abord en tant qu'artiste de l'œuvre de la nature. En fait, c'est incroyable parce que justement, c'est allier beauté et fonction. C'est-à-dire que le motif que va créer le squelette de corail, c'est aussi pour la circulation de l'oxygène, etc. Donc c'est cette beauté a un sens. Et ça, pour moi, c'était assez fascinant. Et chaque œuvre que je réalisais autour de squelettes de corail, j'essayais qu'elle soit aussi la matérialisation d'une nouvelle connaissance sur le sujet que je pouvais acquérir, jusqu'à avoir une bonne connaissance du corail et de ses enjeux environnementaux. Donc quand j'ai visité la Scop Fontanil et que j'ai découvert le point d'esprit, le point traditionnel, j'ai tout de suite reconnu en fait le motif d'un des squelettes que je pouvais travailler. Je me suis dit, il n'y a pas de hasard dans la vie, il y a quelque chose, quoi. Parce que cette forme est un peu constitutive du vivant, elle est assez belle et assez forte. Et du coup, quand je suis retourné à Paris, donc j'ai montré cette dentelle à Isabelle Domarcoulon. Et je lui ai dit, pourquoi on n'essayerait pas, en fait, d'utiliser cette dentelle comme support de développement de colonies coralliennes? Parce qu'en fait, la dentelle avait déjà des avantages de base d'un support de développement, c'est-à-dire la rugosité, la transparence, voilà, des choses mécaniques. Et en fait, l'avantage de la dentelle aussi, c'est que c'est biodégradable et biosourcé. Donc l'idée, c'était d'avoir un support qui est à la fois écologique et qui en même temps fait que on est obligé d'intervenir en tant qu'être humain par rapport à la dégradation qu'on a imposée à la nature. Donc essayons de trouver une solution qui aura le moins d'impact. Et du coup, la dentelle, une fois que le corail se développe dessus, la dentelle doit disparaître et normalement, du coup, l'homme...
Mais comment expliquer que le corail se fixe dessus ?
Alors ça fait partie de nos expérimentations. Pour l'instant, c'est quand même un point d'interrogation. Moi, je crois beaucoup un peu à la sémantique des mots. Et c'est Isabelle qui me faisait remarquer ça, qu'on parlait de tissu vivant, de tissu musculaire, et en même temps du tissu textile. Les deux, en fait, sont un peu liés. Moi, ce que je pense aussi, c'est que même si le corail et la dentelle ne se sont jamais rencontrés, ma théorie, c'est que tout ça vient de la nature. C'est que le coton est une matière naturelle. Le corail, c'est du vivant, c'est de la cellule. Donc, pourquoi le vivant entre lui ne peut pas s'entendre? Donc, je pense qu'on a encore des choses à découvrir autour de ça. C'est ça qui est fascinant dans
ce
projet.
Ça paraît complètement magique et extraordinaire.
Ouais. Mais en même temps, en fait, tout semble logique. Le lien se tisse naturellement parce qu'en fait, moi, ce que j'ai à cœur dans mon travail, c'est de faire le lien entre tradition, passé, présent et futur, et tous les aspects de la société, qu'ils soient artistiques, économiques et environnementaux. Donc là, de se dire que ça va être une tradition, en fait, un savoir-faire traditionnel d'une usine qui est devenue une SCOP, qui va pouvoir peut-être potentiellement aider le corail et l'avenir, tout ça, en fait, relie à la fois tradition, économie et environnement dans un projet vertueux. Donc en fait, c'est vrai que tout semble assez finalement logique.
Alors Jérémy, vous avez testé le principe et le processus, là c'est très scientifique, corailartefact.com pour l'adresse. Ça fonctionne en aquarium, et là vous allez passer à la version grandeur nature.
Alors il nous reste encore du travail en laboratoire. Là, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, on a validé l'hypothèse que la dentelle est un support intéressant. Maintenant, il va falloir retravailler cette dentelle pour qu'elle soit encore plus efficace. L'idée, c'est que cette dentelle, en fait, traditionnelle, on va essayer de créer ce que j'appelle une dentelle 2.0. Donc, l'améliorer. Donc, ça, il faut continuer encore au laboratoire. Et effectivement, 2019, l'idée, c'est de, le cap, c'est des expériences in situ sur un vrai récif de corail. Ouais.
Vous savez que vous êtes un vrai cadeau de Noël avec cette invention. C'est quand même incroyable. Un artiste plasticien et une chercheuse en biologie marine qui se lance dans cette aventure qui paraît insensée, extraordinaire, mais tout à fait jouable et qui pourrait révolutionner quand même la situation de notre biodiversité aujourd'hui et la situation des barrières de corail qu'on sait très atteintes dans de nombreux endroits du monde. Merci beaucoup, Jérémy.
Merci à vous.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand, sur France Inter.
De l'innovation encore, et il en était largement question lors d'un concours qui a été lancé au premier trimestre de cette année dans nos carnets. Pour cause, le prix s'appelle « Innover à la campagne, j'entreprends là où j'ai envie de vivre ». Le souhait était de donner une plus grande visibilité à des entreprises déjà en activité et dont les lignes de conduite sont guidées par le développement durable, la qualité des produits, un respect des hommes qui les façonnent et puis une préservation de l'environnement. Suite aux présentations faites de ce premier concours, plus de 250 candidats se sont inscrits et les 10 lauréats ont reçu leur prix en novembre au Pont du Gard. À défaut de citer tout le monde aujourd'hui, je signale le grand prix Innover qui a été attribué à l'entreprise Géochanvre que nous avions reçu dans les carnets avec son fondateur. Frédéric Roux a en effet mis au point un process de fabrication de toiles de paillage en fibre de chanvre à destination des producteurs de cultures vivrières et horticoles. Un produit 100% biodégradable. Il a donné naissance aussi à des géotextiles qui permettent un désherbage totalement naturel. Suite à ce prix, l'entreprise est appelée à se développer via un parrainage professionnel et une campagne d'information nationale. Le site, c'est geochanvre.fr. On poursuit notre tournée des initiatives demain, mais on revient à Tours avec les enfants de l'école primaire Jean Giraudoux, Nicolas Stoufflet. C'est le jeu des 1000 euros.